libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Parcours libriste d'Isabella Vanni, ma collègue qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. L'occasion d'en savoir plus sur Isabella. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique Que libérer d'autres que du logiciel avec Antanac en présence d'Isabelle Carrère. Et en fin d'émission la chronique de Benjamin Bellamy sur l'Antéchrist et les petits hommes verts. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Chez, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 10 février 2026. Nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur les web radios Radio Cigaloun, Radio Broussailles, ainsi que sur les radios FM, Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Gonu. Salut Étienne.
Salut Fred, bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Eh bien voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des Assises de l'Attention. Je crois que j'avais ici ou là annoncé cet événement qui a lieu tous les 2 ans. Et d'ailleurs, ici à Cause Commune, on avait en 2022 capté les tables rondes et échanges. Et du coup, j'ai fait de même cette année, 4 ans plus tard, donc le 24 janvier 2026. Alors de quoi s'agit-il? C'est amusant car le concept d'attention a d'abord été un sujet plutôt populaire, et vas-y, fais attention. Et un sujet philosophique avec les pensées écrites de saint Augustin par exemple. Et ensuite, c'est, ai-je appris, en 1958 qu'un psychologue anglais, Donald Broadbent, a travaillé sa théorie du filtre attentionnel. Autrement dit, on a parfois besoin d'un canal unique pour penser et ou pour réaliser quelque chose, et que parfois, plusieurs informations ne pouvaient pas être traitées à la fois. Mais voilà, le capitalisme étant passé par là, on parle depuis plusieurs décennies maintenant d'économie de l'attention. Les sciences de gestion, le management, etc. La façon dont les professionnels publicitaires ou autres marchands ont besoin de capter ou de conserver le plus longtemps possible l'attention des quidam, vu, n'est-ce pas, majoritairement comme des consommateurices avant tout. On sait que les algorithmes des réseaux antisociaux travaillent à cela et se font aider par les calculs des outils qualifiés à tort, de mon point de vue, d'intelligents, mais qui ont ou sont en effet parfois de jolis artifices. Bref, alors plusieurs personnes et collectifs se rassemblent ici ou là, un peu partout dans le monde, pour protester, empêcher, lutter contre les injonctions de plus en plus majeures d'être connectés en permanence, de se mettre un ou des fils à la patte, de toujours en fond de tâche et quoi qu'on fasse, être joignable, obligé ou attiré à regarder des écrans, sur un ordiphone, dans les espaces publics, à son travail, à l'école, pour prendre un billet de train ou un rendez-vous à la préfecture, etc. Le collectif Attention est organisateur de ces assises de l'attention que j'évoquais. Il est composé de 11 associations qui toutes sont indépendantes de l'industrie numérique et cela est important car on sait que plusieurs des GAFAM ou autres puissants, milliardaires ou pas, se gaussent de financer des œuvres et des actions menées par des associations qui du coup ne sont plus vraiment libres de leur dire et de leur faire. Alors, les 11 associations du collectif Attention sont Agir pour l'environnement, qui a à peu près, disent-ils, 25 000 adhérents, qui sont ou des associations ou des personnes. Et cet asso agit comme pression face aux politiques, en mobilisant sur des thématiques diverses, dont le numérique et les impacts sur l'environnement. On a aussi Alerte Écran, qui est orienté sur la sauvegarde de l'enfance libre, scolairement indépendante du numérique dans ses apprentissages. Et il y a le COSE, Collectif contre la surexposition aux écrans, qui, de même que Alerte Écran, Éducation numérique raisonnée, Enfance télé danger, Grandir sans smartphone, Présence simple, vous voyez, ça fait beaucoup d'assauts et toutes, en tout cas, sont toutes les six constituées de parents, mais aussi de pédiatres, de psychologues, de psychomotriciens, motriciennes, qui luttent contre la présence incessante d'écrans devant les yeux des enfants et jeunes, au primaire, en collège ou au lycée. Pas à pas l'enfant, c'est une autre des assos qui est membre de ce collectif Attention, fait de même à propos des tout-petits, en PMI, en maternelle ou en crèche. Eh oui, il y a des écrans qui sont rentrés là aussi. HOP, bah voilà, halte à l'obsolescence programmée, on ne la présente plus ici, n'est-ce pas ? Donc elle fédère les citoyens pour engager, citoyens, citoyennes, pour engager les décideurs publics et privés afin d'aller vers des produits durables et réparables. Elle agit par la sensibilisation des citoyens et citoyennes aux enjeux de l'allongement de la durée de vie et propose des solutions. Et les deux dernières assos qui font partie de ce collectif, donc PRIARTEM, qui est une des premières ONG créées sur la problématique ondes santé-environnement, qui se bat par rapport aux risques liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et enfin, Lève les yeux. Lève les yeux, c'est une asso dont Antanac est membre et qui a constaté, comme nous, que la société était de plus en plus dépendante des écrans, ce qui entraîne de graves effets sur la santé, l'éducation, mais aussi le lien humain, l'environnement, les droits et la démocratie. Du coup, Lève les yeux promeut. Elle aimerait bien promettre, mais elle ne peut pas promettre, elle n'a pas le pouvoir. Donc elle promeut la déconnexion pour mieux préserver l'attention humaine, qu'on peut imaginer comme une ressource, certes, mais rare et précieuse. Voilà, et donc du coup, pendant ces assises-là, il y a eu plusieurs tables rondes. Dans l'une d'entre elles, il est débattu de point de vue, par exemple, est-ce qu'on peut réguler, imaginer des villes sobres ? Et donc il y a des intervenants, intervenantes qui se sont dit, tiens, on pourrait peut-être profiter des élections municipales pour demander à chacun, chacune des candidates des positions plus tranchées, peut-être plus conformes à ce que tout le monde s'accorde à décrire comme vraiment pas supportable quant au numérique, son incidence sur nos vies, les ressources de la planète, le vivant, etc. Et donc, est-ce qu'on continue les écrans à l'école, puisque les villes peuvent faire des choses, alors pas sur le collège et sur le lycée, mais sur le primaire, elles peuvent. Ou bien est-ce qu'on continue avec la métropolisation et une bétonisation de plus en plus grande pour qu'on ait à nouveau, encore et encore, des data centers, etc., et qu'on soit dans des agents involontaires de ces rendements des industries numériques. Dans une autre table ronde, justement, il est débattu de cette question des stratégies d'influence des industries numériques, et notamment, alors que c'est quand même des fonds publics qui sont en jeu tout le temps, comment ça se passe de ce côté-là et comment des manipulations sont opérées par ceux qui ont besoin qu'on continue à regarder ailleurs pendant qu'ils engrangent des bénéfices de tous ordres. La stratégie de ces marchands de doute, j'aime bien la formule. Voilà, donc vous pouvez écouter toutes ces tables rondes-là, donc sur lesquelles on a fait cette captation, sur les podcasts de la radio, ici Cause Commune, et sur le web, vous allez les trouver très très facilement. Et donc du coup, personnellement, à Antanac, on est vraiment tous en train de se dire que on a maintenant les savoirs sur les incidences du numérique à tout craint, on a des enquêtes, on a des études, et pourtant tout continue comme si de rien n'était. Les institutions politiques traitent comme vérité des discours sur les bonnes utilisations de l'IAG et des technologies numériques partout dans les vies de tout le monde. Et donc du coup, on se dit que c'est peut-être vraiment le moment de se reposer des questions un peu plus fondamentales sur qu'est-ce qu'on veut là comme société demain matin et qu'est-ce qu'on prépare pour tous les jeunes, les enfants et les moins petits. Voilà, donc il y a plusieurs questions qui ont été posées à l'issue des tables rondes et je ne peux que vous recommander d'écouter ces échanges. Il y en a même un assez cocasse d'échange entre une ex-ministre de l'Éducation nationale et des participants à propos du plan numérique à l'école qui a été lancé en 2015. C'était qui la ministre de l'Éducation nationale en 2015 ? Vous vous rappelez ? Allez.
Najat Vallaud-Belkacem ?
Yes ! Bravo. Voilà, donc il y a un échange assez comique avec elle dans ces podcasts. Je vous laisse en prendre connaissance. Voilà, à bientôt.
Merci Isabelle, donc c'est la chronique d'Antanac. Je vous rappelle que Antanac, ce sont nos voisines aux 18 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement et le site c'est antanac avec un k.com. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine chronique.
Absolument, avec plaisir.
Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons le parcours libriste d'Isabelle Vanni. Et en attendant, nous allons écouter Little par Radio Déserte. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Little par Radio Déserte, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
On va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui est le parcours libriste de ma collègue Isabella Vanni. Alors un parcours libriste, c'est l'interview d'une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Un parcours individuel, mais bien sûr qui va être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Bonjour Isa.
Bonjour Fred.
Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat tout en bas, ou directement sur le site libreavoue.org. Alors Isabella, tu es née en 1977 en Italie.
Merci de le mentionner.
Ça permet de poser un peu le cadre. Voilà, avec l'accent chantant musical. Tu travailles à l'April depuis septembre 2014 et tu es coordinatrice vie associative et responsable projet. Donc toute ta partie de libriste April, on en parlera sans doute après la pause musicale. Mais dans une première partie, on va passer un petit peu en revue ton parcours. Et en première question, j'avais envie de te demander, parce que quand je t'ai proposé de faire ce parcours libriste, tu n'étais pas forcément partante, tu hésitais, et finalement tu as accepté. Alors pourquoi tu as accepté ?
Donc la réponse pas sérieuse, c'est parce que je n'avais pas le choix. La réponse sérieuse, c'est parce que on cherche à avoir plus de diversité à l'April, dans les communautés libristes. On a mis en place plein d'actions à ce sujet, et ça me paraît normal, ça me paraît important que les femmes libristes fassent entendre leur voix pour montrer qu'on existe, pour montrer l'exemple, pour donner envie à d'autres peut-être de participer. Donc voilà, je l'entends dans ce sens-là.
Eh bien, nous sommes ravis, en tout cas, et je suis ravi, et toutes les personnes qui nous écoutent seront ravies. Tu es venu en France à quelle époque ?
C'était 2011.
2011, alors on va commencer.
De façon permanente.
De façon permanente, d'accord, oui, bien sûr. Tu avais déjà voilà, ce beau pays de la France qui n'est pas très loin de ton pays italien.
C'est facile, en fait.
C'est facile. Donc on va parler d'abord dans un premier temps de la période italienne, et notamment la découverte de l'informatique. Quand est-ce que tu as découvert l'informatique ? À quel moment ? Dans quel contexte ?
Donc, je m'en souviens très bien, c'est mon père qui m'a acheté un ordinateur quand j'avais 14 ou 15 ans. Et c'était un ordinateur, hélas, à l'époque, sur Windows. Et j'étais, je pense, l'une des rares filles dans ma classe, d'ailleurs, qui avait un ordinateur que j'utilisais surtout pour jouer. J'ai essayé aussi de bricoler à quelques fichiers textes, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment comme ça que j'ai découvert. Et même à l'école, même au lycée, je pense que la première fois où on a fait quelque chose autour de l'informatique, c'était assez tard, avec la prof de maths et physique qui nous faisait faire des simples programmes, des mini-programmes en C. Et moi, j'ai voulu profiter de cette émission pour remercier mon père.
Ah, il est informaticien, ton père ?
Non, pas du tout. D'accord. il a été, parce que maintenant il est à la retraite, il était comptable, et il est très curieux de tout. Et il a eu la chance de programmer un IBM avec à l'ancienne, avec les fiches perforées, etc. Donc c'est quelqu'un qui trouvait ça
dans le cadre professionnel.
Dans le cadre professionnel.
D'accord.
Oui. Et donc il trouvait ça. Je pas les détails, mais je me souviens qu'il trouvait ça incroyable de pouvoir faire ça, de profiter des machines, de les programmer et tout. Et donc c'est lui qui tenait absolument que sa fille puisse s'approcher de l'informatique le plus tôt possible pour qu'elle soit à l'aise après par la suite, parce qu'il avait compris que voilà, ça aurait été un peu central.
Donc tu n'avais pas de frères et sœurs ?
Non.
Non, d'accord. Non, mais c'est pas par rapport justement à l'utilisation de l'ordinateur, parce que souvent quand il y a des familles plusieurs personnes, c'est souvent malheureusement historiquement dans cette génération plutôt... le garçon qui a l'ordinateur.
Peut-être que ça aurait été comment ? Qui sait ?
Qui sait ?
Effectivement,
qui sait ?
Effectivement. En tout cas, j'ai bien monopolisé l'ordinateur de la famille, ça c'est sûr. Et puis, je me souviens qu'au lycée, j'aimais énormément les jeux vidéo. Je ne sais plus comment on s'appelle ça. Les click and point. Voilà, les click and point. Donc, c'est les jeux vidéo où il y a une histoire et on suit un personnage et on lui fait faire des actions pour avancer dans l'histoire. Donc, c'est plutôt des jeux d'aventure, mais aussi de logique. Hein. C'est pas des trucs d'action ou de plateforme, ça va dans tous les sens.
Alors, si je peux me permettre, le gamer de la bande, c'est-à-dire Étienne qui est à la régie, dit c'est point and click, c'est l'inverse.
Et moi, je dis
click and point.
Merci.
Alors, j'en profite pour poser la question. Est-ce que tu as un nom qui te revient en tête de jeu auquel tu jouais à l'époque ?
Zach McCracken.
Ah, je ne connais pas du tout, d'accord. Okay.
Monkey Island, ces trucs-là.
D'accord.
C'est pour ça que j'étais super contente quand G a fait le jeu de Superflu. Parce que
G, qui est un des chroniqueurs de LibraVoo et qui est à côté de ça, développeur
et dessinateur, créateur de jeux vidéo. Voilà, on peut faire une longue liste. Et je me souviens que c'était génial. C'était une façon pour moi d'interagir d'une façon ludique avec les copains, c'était surtout des garçons de ma classe, parce que parfois on n'arrivait pas à avancer, et donc on s'appelait, on se donnait des astuces, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc j'ai un souvenir voilà, lié à ces choses-là.
D'accord, alors l'ordinateur donc pour jouer, 77, donc vers la vingtaine, c'est la démocratisation d'Internet. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs en Italie c'est la même période, mais je suppose que c'est à peu près la même période. Ouais. Donc la découverte du web, est-ce que le web a été quelque chose d'excitant pour toi? Est-ce que tu l'as utilisé? Qu'est-ce que tu en as fait?
Oui, c'était les mails. Je pense que c'était les courriels, si on utilisait le mot français. Je trouvais ça super de pouvoir contacter les autres si facilement. Je me posais pas des questions, j'ai questionné pas Internet à l'époque. Mmh. Je voyais que les aspects positifs. Après, je me souviens qu'à un bout d'un moment, j'ai commencé à devenir un peu dépendant, c'est-à-dire que si je voyais pas de courriel, de messages arriver, je commençais un petit peu à être un peu anxieuse, donc. c'est la dépendance qui se crée, c'est-à-dire que j'envoyais j'avais plein de correspondants dans tous les sens, et voilà, j'avais juste ça comme questionnement, comment ça se fait que je suis si mal à l'aise, si dans l'inconfort, si rien n'arrive. Mais sinon, à l'époque, je me posais pas trop des questions sur.
Et est-ce qu'en Italie, il y avait, parce qu'à l'époque en France, il y avait beaucoup de pages personnelles, il y avait des sites qui étaient, on pouvait créer gratuitement des pages personnelles via les fournisseurs d'accès ou autres sites. Est-ce que vous avez la même chose en Italie? Et si oui, est-ce que tu as créé une page personnelle ou un blog? Et sur quel sujet?
Alors, j'ai pas créé de blog. Je crois que j'ai. Non, j'ai pas créé. J'en lisais. Me souviens que j'étais curieuse quand même. J'ai navigué. C'était très primaire, hein, mise en page. Ça ressemble pas du tout au blog qu'on peut voir aujourd'hui. Ça m'a pas venu à l'esprit de faire une page pour moi.
Donc tu es au lycée, tu finis tes études secondaires, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Pas du tout. Alors comment tu arrives à faire des études de sciences politiques?
Alors déjà il faut préciser que sciences politiques en Italie c'est pas du tout sciences politiques en France.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en France c'est tout de suite on pense à prestigieux, à faire je sais pas la politique et tout.
On pense Sciences Po, ENA en fait.
Voilà, exactement. Sciences politiques en Italie je veux pas dire que c'est beaucoup plus simple, hein, c'est-à-dire tout est simple, tout est compliqué, ça dépend de comment on fait face aux choses. Mais disons que pour moi, c'était une occasion de continuer à approfondir une culture généraliste finalement, parce qu'on avait la possibilité d'étudier un peu tout. Hein. J'ai eu droit à histoire, statistique, économie, droit. Donc pour moi, c'était à la fois, ça répondait à mon besoin de toucher à tout, parce que c'est un peu ma façon d'être, de ne pas forcément chercher une spécialisation. Et à la fois, en y repensant, c'était aussi une façon de ne pas choisir. C'est-à-dire de procrastiner le moment du
choix. De choisir un environnement, un choix professionnel. Parce qu'avec ce genre d'études que tu as faites, ça a amené vers quel métier normalement, a priori? Quel large?
Justement, c'est large. D'accord. Ça peut ouvrir énormément de portes comme nom, quoi.
D'accord.
C'est tellement vaste et généraliste que.
D'accord. Et dans le cadre de tes études,
ça peut être journalisme, ça peut être
enseignement.
Ça peut être travailler dans. Oui, quoi, ça peut être aussi une carrière politique, hein, bien sûr. L'enseignement, ça peut être ça aussi. Travailler dans des ONG, dans des associations aussi, ça peut être très très vaste.
D'accord, on va y revenir sur les ONG. Donc dans le cadre de ta formation, tu as travaillé sur quel sujet notamment?
Donc, j'ai fait la mémoire. Donc, à la fin des premières 4 années, j'ai fait une mémoire sur un écrivain, George Sand, française, donc, sous la pensée politique de cette écrivaine. Écrivaine en français, oui, pardon.
Ou autrice, comme tu veux.
Autrice, c'est encore plus simple, oui. Sous cette autrice, donc, sur sa pensée politique, qui était intéressante, parce que voilà, elle avait des idées, elle a des idées socialistes, elle a beaucoup contribué au moment de du gouvernement républicain en 1848, etc. Donc c'est un personnage qui est très, très intéressante aussi pour sa vie, sa biographie. Un peu décevant parce que malheureusement, c'est une femme qui s'affirme. Parce qu'elle arrive à obtenir l'indépendance grâce au travail, elle a cette facilité d'écriture qui lui permet d'écrire énormément d'œuvres et donc de pouvoir gagner sa vie, donc de pouvoir se séparer du mari, de s'émanciper, etc. Mais en même temps, quand des groupes féministes de l'époque lui demandent de l'aide, du soutien pour militer pour le droit au vote des femmes, elle refuse, elle dit d'accord. Les femmes devraient déjà apprendre à gagner leur vie. Donc ça montre qu'en fait il y a des femmes fortes, des personnalités qu'on peut admirer, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément féministes, ça ne veut pas dire forcément qu'elles pensent aux autres femmes, et ça malheureusement c'est une sorte de misogynie intériorisée dont elle n'avait probablement même pas
conscience.
Oui.
D'accord. Ta thèse de doctorat, c'est sur Léon Blum.
C'est toujours pensée politique.
Et puis c'est toujours un peu orienté Léon Blum.
Oui, on est plus ou moins dans le même dans la même sphère, on va dire. Et le titre de thèse, c'était l'épanouissement de l'individu dans le socialisme de Léon Blum. Alors ça remonte à il y a 20 ans, hein, je pense. Donc je me souviens pas exactement de tout ce que j'ai écrit. Ce qui m'avait marqué, c'est que quand il était jeune, en fait, il disait que il fallait pas qu'on était autorisé, on devait s'autoriser. En fait, à prendre des chemins de traverse. Et là, je fais une citation de titre de ton émission, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que lui aussi, au départ, il était un critique d'art. Il était passionné de théâtre, donc de littérature. Donc, c'était plutôt ça, ses passions, on va dire, initiales. Et puis voilà, le cours de l'histoire a fait si que il est devenu une figure politique de premier plan pour le Parti socialiste. Et en fait, sur le quand il adhère au Parti socialiste, en fait, il change un peu d'avis. Et son énorme confiance dans l'État lui fait dire que non, ce serait bien que dès tout petit, ce serait bien de commencer à s'orienter vers un métier, à la limite être aidé à choisir un peu. C'est pas du tout ce qu'il disait au départ, quoi. Donc ça, c'est un peu décevant. Mais par contre, il a écrit une œuvre qui est très 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 intéressante, qui s'appelle Du mariage, et dans laquelle il disait que les femmes devaient avoir le droit d'expérimenter des relations amoureuses, sexuelles, avant le mariage, tout comme les hommes. Et il s'est fait insulter, démonter, même de son côté politique, pour cette œuvre. Donc,
d'accord.
Il avait des aspects quand même assez intéressants à creuser.
Ok, t'as parlé juste avant des ONG. Donc, avec ces formations, tu l'as dit tout à l'heure, ça peut ouvrir plusieurs pistes de travail. Et puis finalement, tu vas très rapidement en Italie travailler pour des ONG.
Ouais.
Notamment, j'ai vu dans le CV Oxfam.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter tout de suite vers des ONG, et notamment Oxfam ?
Alors, j'ai fait d'abord une formation coopération internationale.
Ah oui, parce qu'avant, c'est vrai que tu as fait un stage coopération internationale.
Ouais. Une formation qui m'a permis ensuite d'avoir un stage dans une association qui à l'époque s'appelait UCODEP et qui avait été contactée par Oxfam pour devenir Oxfam Italie. En fait, en annexe, c'est comme ça que ça marche Oxfam, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des sports, elle préfère faire des confédérés, en fait fédérer plutôt des associations qui déjà existent et qui donc ont déjà une expérience sur le terrain. Ça, c'était très intéressant. Et en fait, j'avais eu tout simplement plusieurs enseignants et enseignantes de cette formation qui venaient de UCODEP puis Oxfam Italie et qui m'avaient beaucoup frappé par leur engagement. Je me souviens notamment de cette personne qui coordonnait une équipe sur le terrain et qui disait mais moi je serais heureux de pouvoir partir de ce pays parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de nous. Donc voilà, je suis rentrée tout de suite en phase avec ces personnes et j'ai postulé pour un stage en communication et c'est comme ça que j'ai fait ma première expérience dans une ONG.
D'accord. Donc ça, c'est en Italie.
Ouais.
Et la deuxième, ça va être en France.
Oui.
Alors pourquoi, tout d'un coup, tu te dis, je vais rejoindre ce beau pays qu'est la France
Il se trouve qu'effectivement, j'ai rejoint mon compagnon qui était français. Donc il y avait une raison personnelle, mais je pense que je serais partie quand même de l'Italie. Je ne sais pas si je serais venue en France ou ailleurs. Mais je pense que je serais partie quand même.
D'accord.
Je me pose les questions toute seule. Il faut le dire les choses clairement, hein, aller de l'Italie à la France, quand en plus on connaît déjà le français, c'est pas non plus...
Ah, tu parlais déjà français à l'époque ?
Oui,
d'accord,
un français plus littéraire, on va dire. Puis on arrive à Paris et on apprend que les mots les plus communs ne sont pas utilisés. On ne dit pas voiture, on dit pas chaussure, on utilise d'autres mots. Donc c'est pour ça que voilà, il faut un temps d'adaptation. Non, je serais partie, je pense, parce que me mettre dans un petit inconfort. C'est pas un grand inconfort pour moi, justement, de l'Italie à la France. Voilà, je connais des personnes qui sont allées bien plus loin et dans des contextes aussi culturels beaucoup plus différents, alors que France-Italie, c'est assez proche culturellement. Parce que je savais, au fond de moi, que me mettre dans un petit inconfort m'aurait permis de faire ressortir je ne dis pas le mieux de moi, mais ça m'a permis de m'outiller, de me mettre en action davantage.
Tu avais besoin de nouveaux...
Oui,
un challenge de...
Un petit inconfort, voilà.
Un petit inconfort.
Pas trop, parce que sinon on déprime et on risque aussi de...
Tu as besoin de nouveautés aussi, peut-être.
Oui, sans doute. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, du bien. Et voilà, j'ai amélioré mon français, même si l'accent un petit peu reste.
Non, mais attends, c'est un grand plaisir, franchement, même si des fois, effectivement, à table, on se vanne
ça
sur
ça dépend
les...
de la fatigue. Voilà,
on se vanne sur les accents respectifs, parce qu'en France, il y a beaucoup d'accents aussi, hein, je veux dire. Donc, tu rejoins la France, on comprend pourquoi. Il y a deux raisons, effectivement, créer un petit inconfort et puis rejoindre ton compagnon donc qui est français. Et tu te retrouves à Action contre la faim. Donc, une ONG. Peut-être expliquer ce qu'est Action contre la faim et pourquoi avoir candidaté à rejoindre Action contre la faim.
Alors, donc, oui, j'ai cherché à rejoindre une ONG, mais mes candidatures ne recevaient pas de réponse ou de réponse négative. Et donc, j'ai pas perdu d'espoir, j'ai essayé de garder le moral et comme j'arrivais pas à rentrer par la porte, je suis rentrée par la fenêtre. C'est-à-dire que j'ai, à un moment, j'avais besoin d'avoir des revenus. Ça faisait 3 mois que j'étais en France et j'étais toujours sans travail. Et je comprenais pas non plus pourquoi mon profil n'intéressait pas, mais après, je l'ai compris par la suite, c'est que s'il y a énormément de candidatures pour ces postes-là, parce que c'est des postes qui ont des jobs qui ont du sens, et il y a énormément de gens qui postulent. Et en fait, je me suis inscrite à une agence d'hôtesse qui, par hasard, avait besoin d'une hôtesse Action contre la faim. où j'avais reçu une réponse négative, genre une semaine plus tôt, mais ils avaient besoin d'une hôtesse.
Donc tu es quand même rentré par la porte, parce que les hôtesses ne rentrent pas par la fenêtre.
Je suis rentré. Oui, mais pour dire que voilà, le premier contrat était avec une agence d'hôtesse, et puis on a commencé à proposer des missions, des actions qui allaient un peu au-delà des tâches qui m'étaient confiées. Et j'ai dit oui, parce que je voulais lui montrer que voilà, que je pouvais faire plus, et voilà, et j'ai réussi à me faire embaucher dans le service partenariat entreprise et collectivité. Donc c'était dans le département de la collecte de fonds.
Non, ce qui est essentiel dans les ONG déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce que j'aimais le plus de mon travail, à part le fait qu'il y avait une bonne ambiance, très bonne ambiance dans l'équipe, c'est que j'organisais une fois par an, ou deux fois par an même, un petit déjeuner partenaire où on avait la possibilité de présenter aux entreprises des actions sur le terrain. Et j'aimais beaucoup cet événement, ce projet, parce que ça me permettait justement d'aller voir les collègues qui travaillaient sur les postes plus en lien avec le terrain, et donc d'avoir des de savoir comment ils travaillaient, de connaître plus leur métier, leurs actions, et voilà, c'était une occasion de faire lien avec les autres départements, les autres services.
Mais vous étiez combien Action contre la faim dans votre espace à vous, hein, parce que pas globalement, hein.
Dans notre espace à nous, collecte de fonds, hein. Je sais pas, je dirais une trentaine.
D'accord. Non, c'est pour faire la comparaison après avec l'association que tu as rejoint après.
Ouais.
Mais avant de parler de ça.
C'était une grosse taille quand même, hein. On était sur les 250 entre salariés, stagiaires, service civique.
C'est pour ça que je posais la
question.
C'était
un gros machin.
Voilà. C'était un gros machin, parce que tu as rejoint un petit machin après, qui fait beaucoup de choses, mais qui est, en termes d'équipe.
Mais ça me convient beaucoup mieux.
Voilà. Ah, ben justement, on va en parler, mais avant qu'on en parle, parce que le temps avance, il va bientôt avoir la pause musicale, mais la pause musicale a un lien avec une de tes passions, vu que c'est on va expliquer après. Et donc on va en parler avant la pause musicale, parce que tu as une expérience dans des groupes de rock en tant que guitariste.
Tout à fait.
Comment t'es arrivé à faire ça?
Alors, donc c'est une bonne question. Donc en tant que petite fille, j'ai fait du piano. Voilà, j'ai pris des
lessons. Tu avais choisi ou c'était tes parents qui t'avaient imposé?
Ils m'ont proposé, ça m'a plu. Et à vrai dire, là encore, il faut que je parle de mon père, parce que c'est lui qui a 7 ans, quand j'avais 7 ans, m'a offert un petit clavier tout petit, où on pouvait pas jouer grand chose, hein, on pouvait surtout faire des petits motifs, mais que j'adorais. Et donc quand on m'a proposé de m'acheter un piano plus conséquent, un instrument plus conséquent, et de prendre des cours, ça me paraît tout à fait génial comme idée. Donc j'ai fait des cours privés, mon enseignante de l'époque avait même commencé à parler de donner un examen en tant qu'externe au conservatoire, mais j'étais déjà au lycée à l'époque et il fallait beaucoup, beaucoup trop de travail. J'étais pas si talentueuse que ça, j'adorais jouer du piano, mais ça demandait vraiment beaucoup de travail. Je me rendais compte de mes limites et que pour les dépasser, il fallait travailler encore plus. Et c'était pas jouable avec la quantité d'études qui m'attendait déjà pour le lycée. Mais du coup, j'ai pensé, je peux continuer avec la guitare. Parce que c'est plus simple. Je veux dire, c'est plus simple. On va dire que il est possible de jouer des accords très facilement. En une semaine, on apprend les accords principaux et on peut déjà s'accompagner sur des chansons et tout.
Et autour d'un feu de camp, c'est plus simple d'avoir une guitare que d'un piano.
Tout à fait. Tout à fait. Donc
tu as commencé toute seule à apprendre la guitare en regardant des trucs sur internet, par exemple des tutos, des...
J'ai pas fait de tuto. Je me suis mise à faire un truc hyper compliqué. Je pense que la première chose que je me suis obligée d'apprendre, c'était l'intro de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, hyper compliqué. Je sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, mais c'est très drôle en y repensant. Mais voilà, c'est le défi que je m'étais lancé. Bien évidemment, c'était beaucoup trop compliqué. Surtout qu'à l'époque, moi, j'écoutais surtout du rock indépendant anglophone, donc qui pouvait se jouer avec des choses beaucoup plus simples. Et puis j'aimais, en fait, justement, j'aimais le fait d'apprendre par moi-même.
D'accord.
C'est-à-dire en totale opposition avec, avec la façon scolaire, classique, traditionnelle, académique, avec laquelle on apprend le piano. J'aimais le fait d'appréhender l'instrument de façon complètement anarchique.
D'accord, mais alors, il y a quand même un gap entre, je me dis, je vais apprendre la guitare toute seule, et le fait de rejoindre un groupe.
Oui.
Quelle a été la motivation? C'est le collectif? C'est des copains, copines que tu as rencontrés? Comment ça s'est fait?
C'est le collectif, c'est une personne de ma classe qui me disait, mais vu que tu as commencé l'instrument, et c'est un instrument qui se joue normalement dans des groupes, sache que mon frère vient d'être éjecté d'un groupe musical, et peut-être que tu peux te proposer. Donc c'était très sympa de sa part, parce que son frère a été éjecté, c'est lui qui vient me dire qu'il y a un groupe qui cherche une guitariste, et donc je candidate, et en fait la candidature commence par un appel téléphonique avec le bassiste, avec lequel on découvre d'avoir énormément de goûts communs en musique. On commence à parler de tous les groupes qui nous plaisent. Et puis on va faire l'audition, parce qu'on est à la radio, vous voyez pas les guillemets avec les mains que je suis en train de faire. Et donc pendant l'audition, on me fait d'abord écouter ce qu'il faisait déjà, et tout de suite j'ai adoré, parce que ça rassemblait à rien de ce que j'avais l'habitude d'écouter. Et puis j'ai joué un morceau à moi qui a plu, et puis on m'a dit non, on improvise. Et là, j'ai écarquillé les yeux, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais bon, j'étais à l'eau, comme on dit. Ils étaient contents. Ils étaient contents aussi d'avoir trouvé une fille. Parce que
c'est ma question. Les autres, c'était que des mecs,
oui,
c'est ça?
Et c'était deux mecs. Parce que le batteur était aussi chanteur. Et en fait, ils étaient contents aussi d'avoir une fille. Parce qu'à l'époque, les filles que je connaissais, elles jouaient que de la basse. Mmh. Je sais pas pourquoi. Sinon, ils chantaient. Donc, filles guitaristes qui en plus faisaient des solos, c'était déjà moins fréquent. Et après, ça, c'est le premier groupe. Et après, qui a duré environ 2-3 ans. Et puis, il y a eu un groupe avec lequel je jouais 10 ans. Avec le même bassiste, et je peux le dire là, parce que si jamais mes potes vont écouter ou vont lire la transcription, c'est une des choses dont je suis le plus fier de ma vie, parce qu'on s'est amusé comme des fous, on a fait la musique qu'on aimait, et voilà, j'en suis venu. Quand je suis venu en France et que j'ai dû dire adieu à ce groupe, c'est comme si on m'avait coupé un bras. J'ai mis beaucoup de temps à m'y remettre.
D'accord. C'est le groupe dont on va écouter la musique là?
Ouais.
D'accord. Bon, écoute, on va écouter la musique. On parlera de l'aspect licence et musique après, dans la deuxième partie. Comme ça nous fera une petite pause. Donc on va écouter Caldo par Le Gru. On se retrouve dans 2 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles.
Animale, la pinta, la pinta, la pinta, la pinta.
Nous venons d'écouter Caldo par Le Gru, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous sommes toujours avec ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative responsable projet à l'April. Donc juste avant la pause musicale, on a parlé un petit peu de son parcours personnel, de son expérience dans les groupes de rock, et notamment donc le groupe Le Dru, dont on vient d'écouter un petit morceau. Donc j'ai d'ailleurs dit qu'il était sous licence libre, on y viendra peut-être tout à l'heure dans le cours de l'émission, pourquoi il est sous licence libre. Là on va aborder la suite, la deuxième partie, c'est-à-dire la partie plus libriste de ton parcours. Donc tout à l'heure, si avant les pauses, nous en étions à 2014, tu es à Action contre la faim. Et nous, de notre côté, à l'April, nous recherchons, nous avons une offre de poste pour de l'assistance, donc la gestion administrative, financière, relations avec les membres, support aux différentes actions, parce que la personne qui occupe le poste s'en va. Donc on fait une annonce et tu es parmi les candidates. Alors déjà, pourquoi tu as candidaté à cette offre de poste à l'April?
On parlait tout à l'heure du fait que j'ai travaillé pour une ONG qui était plutôt
grosse,
plutôt grosse et qui permettait, faut dire, hein, la dimension le permettait justement de faire des actions très importantes aussi. C'était complètement justifié. Et effectivement, j'avais envie de trouver une dimension où c'était plus simple, on était plus proche des décisions, où c'était plus simple de faire sentir sa voix. Voilà, on va pas...
Alors, ce qui n'est pas forcément le cas des petites structures, en fait, d'ailleurs, parce que des fois, il peut y avoir...
J'avais ce sentiment.
T'avais ce sentiment.
J'avais ce sentiment, et quand je suis allée éplucher le site de l'April, qui était riche en informations, comme l'est toujours...
Peut-être. Est-ce qu'il était beau? Est-ce qu'il était fonctionnel?
Quand on cherche un travail et qu'on a toutes ces informations sur l'association, la structure pour laquelle on postule, je dois dire que c'est formidable.
Ah, mais c'est-à-dire, je peux préciser quand même aussi que c'est quand on fait des offres de poste et qu'on fait du recrutement et qu'on reçoit des candidatures, c'est aussi agréable de voir des candidatures ciblées. Je me rappelle très bien de la tienne, alors je m'en rappelle d'autant plus que je l'ai relue avant l'émission. Elle était particulièrement ciblée, ce qui n'est pas le cas toujours. Il y a des gens qui des fois ne vont même pas regarder ce que fait la structure, qui des fois parlent d'une entreprise alors qu'on est une association. Donc ta candidature était particulièrement ciblée, ce qui aussi a expliqué qu'on t'a pris en entretien. Et malgré le fait qu'on soit une petite structure, les entretiens à l'April sont des choses où il y a plusieurs entretiens, en fait. Voilà, la procédure de recrutement n'est pas...
C'est très, 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 très sérieux.
C'est très, très sérieux. Donc, mais est-ce que tu connaissais le logiciel libre Libertés Informatiques à l'époque?
Tellement vaguement que je préfère dire non. C'est-à-dire que j'avais des informations tellement vagues que j'étais pas en mesure d'en parler, de l'expliquer à d'autres personnes. Donc je préfère dire non pour cette raison. Mais bien évidemment, comme la plupart des gens aujourd'hui, j'utilisais des logiciels libres sans peut-être pas en avoir conscience. Pour faire un exemple classique, c'est le navigateur Mozilla Firefox, par exemple. Mais voilà, je le dis en toute honnêteté, j'ai appris tout ce que je sais sur le logiciel libre et très rapidement aussi grâce à mon travail à l'April.
Et est-ce qu'il y avait une petite crainte au début justement sur les nouveaux outils que tu allais peut-être utiliser? Parce que autant Firefox, bon, c'est un navigateur, mais dans les outils de collaboration ou autres, outils de mail par exemple.
Non, j'avais pas d'appréhension particulière. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis que j'étais à l'aise avec l'informatique. Ça, et je pense que c'est justement pour cette aisance que j'ai eue dès toute jeune. Je veux dire, le fait d'apprendre d'apprendre en faisant, c'est la chose la plus naturelle qui soit. On apprend comme ça, donc ça me faisait pas plus peur que ça. Par contre, c'était intéressant de voir comment on travaillait, c'est-à-dire que à l'April, la plupart des choses se fait en mode collectif. Par exemple, pour la rédaction d'un texte, on met sur un pad ou bloc-notes en ligne que tout le monde pourrait lire, modifier, commenter, etc., amender. Donc ça par exemple, c'était une nouveauté. C'était une nouveauté de se parler avec une messagerie instantanée tout en étant dans la même pièce à un mètre de distance.
Peut-être qu'expliquer pourquoi, parce que ça fait paraître bizarre sinon dit comme ça.
Bah c'est une façon, ça permet en fait de choisir à quel moment traiter le message. Je suis peut-être en train de me concentrer sur une tâche, même si c'est une messagerie instantanée, je peux me permettre de décaler de quelques minutes la réponse. Voilà, ça permet de respecter en fait les autres, de respecter leur façon de s'organiser, de fonctionner.
Il y a une deuxième raison. C'est qu'on travaille avec des bénévoles qui sont aussi connectés sur le système.
Et donc voilà, de voir. Moi je parlais, ce qui faisait rigoler, c'était parler entre collègues. Oui. Mais bien évidemment, comme on travaille aussi avec des bénévoles, des soutiens qui sont à distance, ça permet effectivement d'être en lien avec tout le monde en même temps, même à distance. Donc c'était assez formidable, c'était une grosse nouveauté pour moi. Et une autre nouveauté, c'était aussi, mais ça c'est peut-être plus connu des gens, c'est le fait d'utiliser un gestionnaire de tickets, que nous on appelle plutôt des tâches, pour signaler des anomalies ou pour faire des demandes par exemple aux bénévoles admin 6 ou pour gérer un projet. Voilà, ça aussi c'était une façon nouvelle de travailler, et plus généralement la méthode agile que c'est surtout les admins qui l'utilisent, mais que j'ai trouvé très intéressant aussi pour ma façon à moi de m'organiser, c'est-à-dire avoir en tête quelles sont les tâches sprint, les tâches qui doivent être faites rapidement, par exemple dans la semaine, et puis des tâches de fond, en background, qu'on peut passer en revue régulièrement pour voir si on peut les mettre dans le sprint. Pour moi, cette méthode est intéressante surtout parce que ça permet de se délester le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire, et c'est bien de pouvoir caser chaque tâche quelque part, donc de se délester, de la poser. Ça me permet déjà de moins stresser parce qu'il y a tellement de choses à faire, et ça permet justement de la reprendre en main au moment voulu, ou alors de dire bah non, celle-là on la fera pas, peut-être un jour. Voilà, c'est une méthode d'organisation du travail qui me convient très bien.
Très bien. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide des différentes missions, des tâches, en fait, voilà.
Aujourd'hui,
parce qu'effectivement, coordinatrice d'initiative, responsable projet, c'est très large. L'April fait beaucoup de choses. Voilà, rapidement, un petit tour d'horizon de ce que tu fais, en tout cas de ce qui te paraît le plus important.
On commence par la radio. Je participe donc à l'émission de Radio Libre à vous de l'April en tant que animatrice, ou personne qui prépare les émissions d'un point de vue aussi communication. Je peux être amenée à faire la régie, même si on a une super équipe de bénévoles pour cela. Je m'occupe de l'organisation de la participation de l'association aux différents événements auxquels on participe chaque année, que ce soit avec un stand ou avec juste avec des interventions. J'y coordonne l'initiative Libre en Fête qui va bientôt commencer, dans laquelle nous mobilisons en fait les associations et les structures locales de promotion du logiciel libre partout en France. On les invite à proposer des événements de découverte, donc c'est une action de sensibilisation vers le grand public. Notamment. Et je mobilise aussi les mêmes organisations à d'autres occasions qui ne sont pas forcément coordonnées par l'April.
Comme la Fête des Possibles, par
exemple,
en septembre.
Comme la Fête des Possibles, qui est plutôt en septembre.
Qui est coordonnée par le
collectif pour une transition citoyenne.
Voilà.
Je peux être moi-même amenée à intervenir pour l'April. Et d'ailleurs, ça, c'était, ça a été, comment dire, un beau défi initial.
Quand tu étais Action contre la faim, est-ce que tu faisais des interventions au-delà du fait d'aller voir des gens pour leur partie financement?
Non. Mais même pour l'April, je suis très à l'aise sous les stands. Je n'ai pas de souci à parler avec les gens ou à les chercher et leur dire bonjour, vous connaissez l'April. Voilà, entamer une conversation, je suis très à l'aise avec ça. Parler en public plus grand, c'est une autre échelle quand même. Et puis je m'occupe aussi de la production des documents de sensibilisation en lien avec le groupe sensibilisation. Et la dernière chose que j'ai produite, c'est notamment les marque-pages que j'ai produite. Le projet que j'ai suivi, que j'ai coordonné, c'est le projet des marque-pages qui illustrent nos actions. Je profite pour faire un coucou à Antoine Bardelli, qui est notre graphiste bénévole et qui s'est occupé de la partie graphique. Voilà, je pense que j'ai fait.
C'est un recrutement de bénévoles aussi sur des projets réguliers, parce que voilà, des gens arrivent, enfin des fois partent, arrêtent, et puis on a de nouveaux projets aussi. Par exemple, on a maintenant une belle galerie photo de nos événements, et derrière il y a 3 ou 4 bénévoles qui s'occupent des photos. Ça, c'est des gens que tu as.
Tout à fait.
Il faut
les trouver avec des annonces. Je profite aussi des stands pour trouver les personnes. Julien de l'équipe podcast, c'était
à Toulouse.
C'était tout à fait. Donc toute occasion est bonne, et surtout c'est en continu, parce que la personne bénévole peut être disponible à un certain moment de sa vie, ne plus l'être après. Donc il faut être prête à remettre en mouvement la machine de recrutement. Et récemment, justement, je me suis occupée de recrutement pour étoffer un petit peu l'équipe podcast. Et j'en profite pour dire qu'on va essayer d'étoffer aussi l'équipe régie et l'équipe photo. Donc, vous verrez passer des annonces. N'hésitez pas à postuler. Comme tu vois, je profite de chaque occasion.
Mais tu as tout à fait raison. Et les sujets dont on a parlé à présent, et ceux dont on va parler d'ici la fin de l'émission, toutes les références sont sur la page de l'émission, sur libravou.org/268, parce que c'est la 268e émission, ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Avant de parler d'un petit point sur l'énonciation des 4 libertés versus ne pas énoncer les 4 libertés, on va rester un petit peu sur ce que tu fais, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ton poste, hein, parce qu'au départ c'était plus un poste, on va dire, enfin t'as un poste où t'as de plus en plus de responsabilité et d'autonomie, je vais le tourner comme ça, et c'est ce qui nous paraissait très intéressant dans ta candidature à l'époque, et voilà, on s'est dit, oui, elle va, je crois que je me souviens de l'expression, elle va nous bouger et ça va nous faire du bien. Et donc depuis 12 ans, elle nous bouge et ça fait du bien, et c'est pas fini, on en parlera à la fin. Mais t'avais quelques expériences récentes dont tu voulais plus parler, notamment l'intervention donc avec la présidente de l'April, Bouquinette, avec Amixit.
Oui.
Alors pourquoi? D'ailleurs, rappelle ce qu'est Amixit et pourquoi tu voulais parler particulièrement de cette intervention.
Donc Amixit est une conférence sur l'éthique dans la tech qui a lieu chaque année à Lyon en mai.
Avril plutôt, je crois.
Ça dépend. Avril, mai, je crois que c'est... Ça dépend.
Étienne, Angie va nous le dire.
Ça dépend des années. Au printemps, voilà. Au printemps, à Lyon, c'est 2 journées où on ne parle pas que de technique, justement, mais on essaye aussi d'introduire d'autres thématiques. Par exemple, comment on travaille en équipe, l'éthique dans les métiers de l'informatique. Et il y a même une thématique alien qui sont des sujets autres. Et d'ailleurs, c'est intéressant de préciser que toutes les plénières sont aliens. Donc, c'est vraiment une invitation aux personnes.
Elles ne sont pas techniques, c'est sur, elles sont autour. Ça peut être social, politique, très varié.
On a eu le droit à tout, hein, scientifique même, un graphiste qui est venu. Donc c'est vraiment très très large. Et ce qui fait que on peut l'apprécier même si on n'est pas informaticien ou informaticienne. Et avec la présidente Bouquinette, donc on a proposé une conférence, une présentation autour des actions qu'on a mis en place à l'April, notamment dans Libre à vous, dans l'émission de Libre à vous, pour valoriser les femmes, mettre en avant les femmes. Et donc, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est plusieurs actions qu'on met en place depuis un moment déjà, pour avoir plus de diversité à l'April. Et donc, c'était assez excitant de pouvoir en parler dans une conférence qui est reconnue pour ces thématiques.
Impressionnant aussi peut-être, parce que intervenir devant Mixit, devant ouais. très avec potentiellement beaucoup de monde, ça devait être quand même
ouais, beaucoup
filmé
de monde,
en plus.
Et puis avec une qualité, globalement une qualité assez élevée des conférences. Mais voilà, on était en binôme, donc déjà ça rassure. Si l'une des deux oublie, il y a l'autre qui arrive en soutien. Et finalement, en réécoutant la conférence, je pense qu'on a réussi à dire ce qu'on voulait dire.
Et en plus, vous avez eu des problèmes techniques avant, si je me souviens bien. Ouais. Et quand on écoute la conférence, alors elle en est d'autres de la
l'émission. On était super stressés à cause des problèmes techniques. En fait, on l'avait vraiment très bien préparé. Donc,
elle est très bien.
Bravo à nous. Et la prochaine est sortie.
Et la prochaine édition, donc, c'est les 16 et 17 avril 2026.
Voilà.
C'était en mai en 2022, nous précise Étienne, qui était en régie, donc tout était précisé. Donc, n'hésitez pas à aller, si vous êtes à Lyon, à Mixit. Il y a bientôt des loteries, parce qu'il y a tellement de demandes pour y assister, qu'il y a deux loteries, pour éventuellement pouvoir acheter un billet.
Je pense que la billetterie est ouverte, et c'est le premier arrivé, premier servi. Ou la première arrivée, première servie.
Je crois qu'ils ont deux loteries, je crois. Ils font de loterie. Bon, écoutez, on n'est pas d'accord. Alexis, sur mixit.conf, mais je crois me souvenir qu'il y avait tellement de demandes qui faisaient des loteries.
À un moment, oui, mais cette année, c'est vraiment dépêchez-vous parce que les postes partent vite, les places partent vite.
Alors, on fait travailler un petit peu Étienne, qui a beaucoup travaillé, il faut le dire, avant l'émission, parce que pour tout vous dire, 5 minutes avant l'émission, nous n'avions plus de courant au studio. Donc voilà, on le remercie d'avoir mis en place tout ça très rapidement. Donc ça, c'est Mixit. Donc tu fais aussi participer l'April à de nombreux événements et de surtout des nouveaux événements. Ça aussi, tu voulais en parler, mais si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais des événements où on n'avait pas forcément l'habitude d'aller, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas des événements que geek, ou même pas du tout geek.
Oui, tout à fait. Élément pas geek. J'ai pas révisé tous les événements auxquels on a participé, mais effectivement, c'est important pour l'April aussi de se faire connaître aussi des publics nouveaux, parce que si on va au Capitole du Libre, journée du logiciel libre, on demande si vous connaissez l'April, la réponse est généralement oui. Si on nous propose de participer, j'essaie de faire participer l'April. Et l'année dernière, par exemple, on a participé grâce au Capitole du Libre, d'ailleurs, grâce à un contact sur le Capitole du Libre, on a pu participer au Fer Festival, qui est un festival autour des espaces du fer, donc Hackerspace, Fab Lab, etc. Donc c'était une première pour nous. On a été aussi invité aux Assises de l'Art Libre en été. Donc,
oui, par exemple, en Suisse.
C'était en Suisse. Donc la chance qu'on a, c'est que comme on a une association nationale, on a des membres partout. Donc ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas forcément toujours se déplacer.
On a même des membres franco-suisses, chroniqueurs dans Libre à vous, et dont on va parler juste après pour les musiques.
Et donc moi, en tant que personne responsable de la participation, j'hésite pas justement à solliciter les membres en région. Et d'ailleurs, j'en profite. Pour moi, aujourd'hui, c'est aussi une occasion de... J'ai quand même un peu la casquette April, là. C'est l'occasion pour dire que si vous êtes membre au soutien de l'April et que vous pensez que vous pouvez pas faire grand-chose à part nous donner, comment dire, nous contribuer au financement de l'association, sachez que déjà on apprécie la contribution au financement, mais que vous pouvez aussi tenir un stand et que ça va vous prendre du coup que quelques heures. Il n'y a pas besoin de contribuer, par exemple, sur la durée, sur une année. Il y a des activités qui effectivement demandent une présence régulière, mais tenir un stand, c'est juste une journée, un après-midi. Donc c'est une très chouette occasion de nous aider, et ça permet aussi de rencontrer d'autres membres April et peut-être de participer au recrutement d'autres personnes, de faire adhérer d'autres personnes, de tout simplement faire connaître le logiciel libre d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, ça peut être un peu tu as utilisé un bon adjectif tout à l'heure, impressionnant au départ, mais en fait vous verrez, il suffit de parler de sa propre expérience avec le logiciel libre, Et si vous savez pas répondre, vous pouvez toujours orienter vers notre adresse de contact. Donc,
et en plus, la responsable vie associative, la coordonnatrice vie associative, on voit plein d'informations avec des documents éventuellement
à lui rendre. Voilà, on vous laisse pas seul quand même. Vous avez de la documentation, vous pouvez poser des questions.
Alors, ça me fait penser justement quand tu parles des stands. En préparant l'émission, tu m'as envoyé des infos. Comment tu as appris à ne plus commencer par énoncer les quatre libertés aux néophytes en visitant le stand?
Ça marche pas, les quatre libertés.
Bah, explique pourquoi ça rapidement, parce qu'il y a encore deux, trois points à aborder avant la fin de l'émission.
Parce que déjà, c'est long. C'est long c'est pas si concret que ça pour une personne qui n'est pas geek. Donc les quatre libertés, moi, bien évidemment qu'à bout d'un moment, il faut les dire.
Alors, on va juste les répéter les quatre, comme ça les gens qui les découvrent. Liberté d'utilisation.
D'exécution, hein, sans limite, sans
restriction.
Sans restriction aucune, c'est la liberté zéro, si on veut. Liberté d'étudier le code, la recette de fabrication, on va dire, du logiciel. Liberté de le modifier pour apporter des améliorations, pour corriger de bugs, tout ça, pour le traduire. Il y a mille raisons pour le modifier. Et la liberté aussi de le partager. Et notamment avec, par exemple, des personnes, pas que, hein, mais par exemple, si vous n'êtes pas programmeur, programmeuse, et que vous pouvez le partager, vous pouvez faire auditer par des personnes qui connaissent le code. Donc, en fait, si on commence par ça, moi, je pense qu'on perd les gens. Mmh. Donc, en fait, je préfère m'adapter au profil des personnes. Par exemple, j'avais fait une chronique sur ça à un moment. Une enseignante de gymnastique de l'époque cherchait un logiciel éthique non intrusif, un logiciel de visio pour continuer à faire ses cours pendant la période du confinement. Et tout de suite j'avais compris que cette personne, pour elle, la protection de la vie intime était très importante. Et ben, du coup, j'ai c'est cet argument en fait que j'ai mis en avant quand je lui ai proposé, par exemple, d'utiliser Big Blue Button.
Comme outil de visioconférence.
Et où, à d'autres occasions, je peux porter le discours sur le fait que les logiciels libres nous permettent de maîtriser une condition nécessaire pour maîtriser notre informatique et non pour se faire contrôlé par l'informatique, pas l'inverse. Et donc après, je peux énoncer les quatre libertés pour expliquer pourquoi ces quatre libertés nous permettent de ne pas être dominés par les éditeurs de logiciels et pourquoi on a une relation paritaire entre les personnes qui développent et les personnes qui utilisent et qui n'a pas de hiérarchie. Donc c'est vraiment avec l'expérience que j'ai appris à adapter les arguments, le discours, au profil que j'ai en face de moi.
D'accord. On va préciser donc pour Mixit, il y a deux créneaux. Il y en avait un le 9 février et l'autre le 23 février. Et ces créneaux, ce ne sont pas des loteries, effectivement, c'est premier servi. Donc le prochain, si vous voulez, des créneaux. Je crois que c'est 23 février à 21h, je crois que c'est en soirée. Donc mixit.org. Et sinon, vous regardez dans les notes de l'épisode. Alors, rapidement, un projet récent dont tu as parlé, dont tu voulais parler aussi, la base de données de musique.
Oui, là aussi, je renvoie, on peut renvoyer à la chronique qu'on a fait, où c'était en coulisses de Libre à vous, je sais plus. J'aime beaucoup ce projet parce que c'est né d'un besoin personnel, c'est-à-dire que j'avais besoin de pouvoir trouver facilement des musiques qui me plaisaient pour les pauses musicales, parce qu'on prépare l'émission. L'outil qu'on utilisait à l'époque, un pad ou un bloc-notes en ligne, était devenu beaucoup trop volumineux, beaucoup trop grand pour s'y retrouver. Donc, à un bout d'un moment, j'avais vraiment besoin d'avoir un outil plus adapté, comme une base de données. Et là, hop, pendant une rencontre April, en soirée, j'en ai parlé avec un bénévole de l'April, donc Vincent Calam, qui est spécialiste des bases de données et qui aime beaucoup la musique aussi et qui s'est mis dessus. Et donc, aujourd'hui, on